C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler influence marketing et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant.
Salut Thibaut, salut à tous. Dis-moi, hier en préparant le sujet, je me suis rendu compte d'un truc. Malgré tous tes efforts, on n'est pas encore des influenceurs. J'ai vu que ça commençait à 1000.
Tu veux dire qu'on n'a pas eu encore de partenariat,
voilà,
de marque.
Aussi.
Ouais, voilà, on attend, hein, envoyez-nous des trucs. Les amis, on va parler influence marketing et surtout on va faire le point où est-ce qu'on en est avec l'influence marketing en 2019. Après une année 2018 qui a été vraiment marquée par l'explosion du marketing d'influence et un certain nombre de scandales, on peut le dire, ou de remises en question. En tout cas, on ne revient pas dessus. Les fake influenceurs, les fake followers, etc. etc. Eh bien, on peut quand même constater que ça y est, le marché de l'influence semble arriver à maturité en France. On a envie de dire tant mieux, parce que c'était un petit peu le Far West. Et voilà, et donc ce qu'on peut dire, c'est que ces acteurs, ils sont multiples, les concurrents se comptent par centaines, c'est quand même ultra concurrentiel côté influenceur en tout cas, hein. Et des pratiques marché commencent à se structurer. Les annonceurs, les agences ont arrêté d'acheter n'importe quoi à n'importe qui, enfin, voilà. On espère. Bref, on commence à y voir plus clair.
On commence à y voir plus clair. Donc, on s'appuyait, nous, un petit peu sur une étude de Rich. Rich qui fait tous les ans, hein, depuis 2016, une étude sur l'influence marketing. Donc, vous pouvez les retrouver sur votre site. On vous mettra le lien. Elle est très complète. Et on en a sorti quelques chiffres intéressants. Et bien sûr, on en a rajouté à la sauce super natif.
On peut rappeler ce que c'est Rich, hein, parce que peut-être les gens ne savent pas exactement.
Rich, je crois que c'est une agence de sondage.
Alors, non. Rich, c'est une plateforme.
Pas du tout.
Non, Rich, c'est une plateforme de mise en relation entre les marques et les influenceurs.
Exact. J'ai fait une boulette.
Voilà. Donc effectivement, tu as raison. Par contre, depuis 3 ans, ils font une très très belle étude. Et pour celle de 2019, ils ont sondé plus de 1000 influenceurs qui sont français. Et ça, c'est vraiment important de le préciser parce qu'en fait, on a beaucoup d'études RICAN, hein, US, hein, qui sont faites sur l'influence marketing. Mais celle de Rich, spécifiquement sur le marché français, c'est une des seules, une des rares. Et donc, elle est précieuse. Et on remercie nos amis de Rich.
Ce qui nous intéresse tout de suite, en effet, c'est le marché français. Le marché américain ou autre peut être un peu différent. Et là, on a vraiment des beaux chiffres. Voilà. Après, c'est une étude, hein, à voir vraiment sur le terrain. Mais en tout cas, ça donne vraiment un bel aperçu.
Ouais, ça permet d'y voir plus clair, hein, sur les questions qu'on se pose tous, hein, autour de l'influence marketing. C'est quoi le paysage, c'est quoi les attentes des marques et des influenceurs, c'est quoi leur réseau social préféré, combien ils sont payés, est-ce qu'ils suivent la réglementation, etc., etc.
Alors déjà, pour dégrossir, je peux vous donner le portrait de l'influenceur type.
Ouais, c'est quoi un influenceur en 2019? Tiens, voilà. très bonne question.
Alors,
très bonne
pour faire simple, un influenceur, c'est quelqu'un, c'est un internaute, hein, quelqu'un comme vous et moi qui fait des partenariats avec des marques via son compte réseau social, un de ses comptes réseaux sociaux. Et voilà. Et du coup, il y a plein de gens qui le suivent parce que forcément, ça devient un petit peu une célébrité. Hein,
il a une influence.
C'est
en
devenu
cas.
Une nouvelle caste, hein, les influenceurs dans notre société en 2019. Alors, pour ce portrait, 60% des influenceurs entre 19 ans et 30 ans.
Ouais.
J'ai comparé avec l'année d'avant, c'était 50% en 2018.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'elle soit elle se rajeunit, soit elle se vieillit, dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, elle se recentre, la population d'influenceurs.
Donc sur une population de 19-30 ans.
Voilà, okay. 19-30 ans. 82% des influenceurs ont entre 1000 et 50 000 abonnés.
Ouais, ça, c'est ultra intéressant, je crois. On va revenir, hein, sur le volume de leur compte, le poids de leur compte, et on verra qu'il y a quand même une grosse tendance, c'est la micro-influence, voire même la nano-influence.
Oui, ils appellent ça nano-influence.
Ouais, on va parler de ça.
Et oui, c'est vrai, on en avait parlé dans un podcast déjà sur les influenceurs où on essayait de déterminer les créneaux d'influence. Et là, ils englobent tout et c'est très intéressant.
Donc, 82% des influenceurs français ont entre 1000 et 50 000 followers.
Donc, laisse à penser quand même que les 18% restants ont plus de 50 000.
Ouais,
et là,
totalement.
C'est des méga influenceurs. Pour des OP d'influence marketing, les trois réseaux les plus engageants, alors attention, il y a du changement en 2018, sont Instagram à 71%. YouTube à 8%, Facebook à 7%, et j'ai vu que TikTok et Snapchat, par exemple, donc là spécialement jeunes, étaient à 1%.
Ouais, donc on est vraiment à la marge. C'est Instagram hein, vraiment qui truste aujourd'hui le marché de l'influence marketing.
Et logique aussi avec cette part d'influenceurs qui ont entre 19 et 30 ans. Donc, ce qui est très drôle par rapport à ces réseaux phares, c'est qu'en 2017 et 2018, la seconde place, Thibaut, te rappelles-tu par qui elle était encore
non,
occupée ?
Non.
Par WordPress.
Ah, donc par les blogs.
Voilà, par les blogs. Ouais. Et là, ça c'est juste, ils ont disparu du paysage. Ouais. On le savait, on avait annoncé la perte de vitesse du blog, mais là voilà, il n'y a plus de blog.
Il n'y a plus de blog dans le top 5 ou top 6 des plateformes d'influence marketing les plus utilisées. Ouais, c'est vrai, là la tendance, on la voyait venir, hein. Ça y est, on est dedans. Hein.
Et là,
On pourrait rajouter sur ce portrait robot de l'influenceur en 2019, c'est que clairement, ils ne vivent pas de leur activité d'influenceuse, influenceur, et gagnent moins, alors attention,
87%.
Moins de 87% des Français influenceurs déclarent gagner moins de 5000 euros par an avec leur activité en ligne. Donc, on est quand même très, très loin d'un Eldorado ou en tout cas de l'image qu'on se fait de ces influenceurs qui gagnent leur vie grâce à leur influence en ligne. Ce n'est pas le cas, soyons très, très clairs. C'est vraiment une activité annexe pour ces filles et ces garçons qui animent des communautés sur les réseaux sociaux.
Et un chiffre en parallèle, 87% des influenceurs s'en occupent seuls. De leur réseau, leur communauté, nouer des partenariats. Donc, j'imagine que ce n'est pas la même proportion de personnes. Ce n'est pas les mêmes personnes, mais en tout cas, on peut comprendre que déjà ceux qui gagnent leur vie avec, peut-être, sont devenus, se sont fédérés,
se sont structurés, ont peut-être un agent, peut-être un photographe qui les accompagne, etc. Ça, c'est vrai, on voit ça sur les gros influenceurs, mais les autres, c'est des auto-entrepreneurs de l'influence qui gagnent des petits montants.
Mais qui le font très bien, attention.
Voilà, exactement. Alors, on va ce qu'on voit aussi dans cette étude clairement, c'est que la nano-influence a le vent en poupe. 29% des influenceurs français interrogés ont une communauté entre 1000 et 5000 followers. Et clairement, c'est vrai que ça, c'est vraiment étonnant parce que pendant très longtemps, on a parlé d'influence marketing avec une perception qui était...
Les gros youtubeurs
avec des compteurs énormes ou même les Insta au-dessus de 50 000. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, à titre d'exemple, c'est que les marques, elles tissent davantage de partenariats avec des influenceurs naissants. Hein, et 37% des influenceurs qui avaient entre 0 et 1000 followers, donc là, on est vraiment dans des tout petits comptes, ils ont fait leur premier partenariat quand ils avaient entre 0 et 1000 followers. Donc, on voit que même, tu vois, donc tu disais, on n'est pas des influenceurs. Je suis désolé, on a 700 personnes sur notre
Insta.
Alors, on
est des influenceurs.
On pourrait se faire contacter.
On n'a pas encore fait de partenariat. Ça va arriver.
Voilà.
Si vous êtes une marque et que vous voulez nous envoyer des trucs super cool à tester.
Ouais, si les andouillettes Bobos veulent nous faire tester leurs produits.
Je pensais plus à un drone, moi, mais...
Pourquoi du coup c'est la nano influence à le vent en poupe, peut-être parce que c'est moins cher déjà.
Alors c'est moins cher et on observe aussi sur les plus petits comptes parfois qu'il y a plus d'engagement en fait. Les influenceurs sont plus proches de leur communauté parce que déjà ils sont moins nombreux, ils les connaissent vraiment depuis le début puisqu'on est au début, donc ils connaissent un peu tout le monde, ils échangent régulièrement avec eux. Donc c'est là où les marques, alors après il y a plein d'outils, notamment Reach, qui permettent de tester cette influence, de la mesurer, et on remarque que l'engagement est plus fort sur les petits comptes, donc c'est très intéressant pour une marque.
Ouais, donc effectivement les marques, quand je disais en intro que les marques ont fini d'acheter à n'importe qui et à n'importe quel prix, clairement la nano-influence ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on préfère faire des opérations avec des nano-influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont une petite activité en ligne, mais qui par contre ont une vraie communauté et puis qui ont un vrai pouvoir d'influence, parce que c'est ça qu'on vient chercher. Donc ils peuvent convaincre leur communauté que le produit qu'ils montrent ou le service dont ils parlent a une vraie valeur, mettre à profit leur influence. Ça, c'est... Puis peut-être une autre raison, un petit peu plus sonnante et trébuchante, c'est que c'est plus facile de faire des OP, ce qu'on appelle goodwill, avec des micro-influenceurs, c'est-à-dire les OP avec dotation, juste je te donne du produit, je te donne des bandes réduction et tu en parles, que de le faire avec des comptes. Plus le compte va grossir, plus forcément les influenceurs vont vouloir monétiser leur influence et donc trouver des deals sonnants et trébuchants.
Et ils seront très beau jeu de mots, sonnants et trébuchants, j'adore. et ils seront au moins aussi moins sollicités. Donc, moins on cherche des gros compteurs de fans, plus on a de chance d'être les premiers sur le terrain. C'est vrai qu'on disait souvent 1000, c'était la frontière, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme les heures de prime time pour les publications. Si tu arrives un peu avant 1000 followers, tu as plus de chance aussi que, d'être le premier. Donc, l'influenceur sera moins regardant, moins exigeant. Voilà.
Totalement. Donc voilà, la nano-influence a le vent en poupe, ça c'est clair. Autre chose très intéressante dans cette étude, c'est de quoi ils parlent, ces influenceurs. C'est quoi leur ligne éditoriale? C'est quoi leur sujet? Qu'est-ce qu'ils ont à raconter?
Alors,
clairement, ils parlent de
lifestyle.
Buzzword, le buzzword 2019, lifestyle. C'est quoi le lifestyle?
Alors déjà, c'est 40% qui parlent de lifestyle, déclarent parler de lifestyle.
Ouais, c'est ça, nous, notre ligne éditoriale, c'est le lifestyle.
Alors on s'est fait, hier, on a parlé avec Thibaut, on a échangé, c'est quoi le lifestyle? Alors, juste pour un exemple, une influenceuse beauté, si elle se prend en zoom en train d'utiliser un rouge à lèvres de très près, qu'on voit très bien le rouge à lèvres, ça c'est de l'influence beauté. Et si elle se prend de loin devant son miroir avec un petit cactus et un petit canapé, là c'est du lifestyle.
Oui, c'est pas mal, ça, c'est ça. Oui, le lifestyle, c'est tout ce qui a trait entre guillemets à l'art de vivre. Hein, donc c'est là où on voit, effectivement, on voit de l'humain, on voit du vrai, on voit de la situation de vie. Mais c'est assez cohérent, hein, parce que d'une, Instagram et ses plateformes d'influence, et notamment Instagram, sont vraiment un lieu dédié au lifestyle. C'est-à-dire, je raconte ma vie, mon expérience. Et puis, c'est aussi, pour une marque, c'est aussi ce que je viens chercher. C'est-à-dire, je viens chercher la cooptation. C'est-à-dire qu'un influenceur utilise mon produit ou mon service dans sa vie et raconte cette expérience-là. Donc clairement, voilà, le lifestyle, ça me donne envie un jour qu'on fasse un épisode du Super Daily dédié au lifestyle. C'est quoi le lifestyle? Étudier tout ça.
ça va être long, mais on peut y arriver.
Voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que moi, ce qui m'a surpris, c'est que les influenceurs, donc on a dit 40% définissent leur style comme lifestyle, c'est énorme, hein, et aussi, on peut constater dans cette étude que les influenceurs français sont relativement uniformes en termes de ligne éditoriale. Finalement, les niches, elles sont assez peu investi, les niches de sujets, les niches de contenu. Seulement 6% par exemple sur la thématique foot, j'aurais imaginé beaucoup plus sur ce sujet-là. 5% sur la thématique sport, pareil, on sait quand même c'est des gros sujets, fitness, etc. etc. Donc, moi si je devais devenir influenceur demain, j'irais directement saisir de la niche. Si je devais vraiment en faire mon business, j'irais directement faire autre chose que du lifestyle et j'irais saisir une niche parce qu'il semblerait que tout le monde se bouscule au portillon sur la thématique lifestyle.
On a une influenceuse lyonnaise qui fait footrack, qui fait du food d'un côté avec un compte food et qui fait aussi un petit peu du sport et du lifestyle avec son autre compte. Donc là, il y a tout.
Voilà,
on peut faire deux comptes.
C'est malin, c'est malin. Alors, où est-ce qu'ils sont ces influenceurs en 2019? Où est-ce qu'on les trouve? On l'a dit, hein, sur Instagram, évidemment. Tu as parlé le chiffre.
71,7%.
Voilà, sur Insta, c'est énorme. 8,8% sur YouTube. C'est vrai qu'on le sent, YouTube. Maintenant, c'est un espace pour les créateurs de contenu plus que pour les influenceurs. Et ça, c'est pour plein de raisons. La première, c'est produire du contenu à forte valeur ajoutée sur YouTube, c'est un investissement en temps qui est considérable.
En temps, en matériel et en compétences aussi.
Exactement. Alors que sur Instagram, on peut assez rapidement proposer du contenu sympa, fun, animer une communauté sans être...
Aujourd'hui, avec un bon téléphone, on fait des photos de très bonne qualité qui peuvent aller sur Insta, un filtre, et voilà, on est influenceur.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est on voit aussi les partenariats, où est-ce que les influenceurs sont les plus sollicités par les marques. Alors évidemment, on retrouve Instagram, 67% des partenariats concernent des contenus sur Insta. En gros, les marques approchent des influenceurs en leur disant « c'est vraiment ton compte Insta qui m'intéresse » à hauteur de 67%. Bah, tu vois, tu disais les blogs sont morts, mais en fait, pas tout à fait, parce qu'il y a encore 18,5% des demandes de partenariat venant des marques qui concerne du contenu blog.
D'accord.
À mon avis, il y a une bonne raison là-dessus. Hein. C'est celui encore du poids en SEO ou de la présence.
Oui, et puis ça reste dans le temps.
Voilà, le côté plus evergreen de ce type de contenu. C'est-à-dire qu'effectivement,
et on le contrôle un peu plus. La marque peut dire « Ouais, j'aime pas trop ton paragraphe-là. Est-ce que tu peux me le changer ?» Ou « T'as oublié de parler de telle capacité du produit, etc. » Donc, il y a encore plus de contrôle de la part de la marque sur un blog.
Exactement. Et ensuite, autre chose que nous donne cette étude Rich, eh ben, c'est que le marché de l'influence marketing se porte plutôt bien avec des partenariats clairement en hausse.
Oui, en hausse de, je crois, 64, 63% ont reçu plus de demandes qu'en 2018.
Voilà.
Donc, bon, alors, l'année sort, l'étude sort en début d'année. Donc,
par rapport à 2017, hein, voilà, parce que c'est les chiffres de 2018. 2018. Donc, 63% des influenceurs interrogés déclarent avoir reçu plus de demandes de la part des marques. On peut aussi noter que 86% des influenceurs interrogés, donc on est d'accord, c'est un panel de 1000 influenceurs français entre 0 et 50 000. Hein.
Exactement.
Enfin, même plus que ça, non, d'ailleurs, il n'y a pas de limite.
Oui, non, il n'y a pas de limite.
Ils en ont pris 1000. 86% des influenceurs interrogés ont déjà fait un partenariat avec une marque. Donc, voilà, une fois qu'on est lancé sur Insta, c'est vrai que c'est tentant de le faire. Et d'ailleurs, c'est quoi un partenariat marque-influenceur en 2019? Quelle info on a là-dessus?
Et ben voilà, j'allais te le dire. Donc ça reflète un petit peu la volonté des marques de qu'est-ce qu'ils souhaitent afficher. 75% des partenariats de marques sont des placements de produits Instagram.
Ouais,
ça c'est ce que j'ai vu. Donc afficher le produit, le mettre en avant, éventuellement le lier à un compte shopping au nom de l'influenceur, le mettre dans sa story.
Ouais, on peut aussi dire que, avant de commencer, que 70% des partenariats se font avec l'aide d'un intermédiaire. C'est-à-dire que tu as une agence RP,
une plateforme comme Reach ou Lefty, par exemple, ou d'autres.
Exactement, une agence social media. 70% se font avec un intermédiaire. Il n'y a que 27% des partenariats qui sont issus d'une demande directe de la marque. C'est-à-dire que la marque prend contact directement avec les influenceurs. Ça, je trouve ça intéressant à noter.
Ouais, bah c'est que les marques ont vraiment relevé le potentiel et aussi les créateurs de logiciels et de solutions ont vu le truc arriver et du coup ça fait que les influenceurs deviennent de plus en plus pros et sont de mieux en mieux informés sur les meilleures méthodes en fait pour arriver à nouer des partenariats. Oui, sur ces chiffres, je te disais donc que 75% des partenariats de marques sont sur des placements produits Instagram. Donc, les marques demandent explicitement, voilà, je veux que tu places mon produit sur ton compte Insta. Et le deuxième chiffre, qui est très loin, mais c'est 30% de ces partenariats sont des demandes qui concernent des codes promo.
Ouais.
Donc, qui peuvent être mis alors, soit dans les textes de statut des posts, soit même parfois on les voit dans les bios actuellement. Voilà.
Je vous fais une promo là-dessus. Ouais.
Et ça marche très fort aussi sur Snapchat, Facebook, Instagram. Enfin, ça marche partout, hein, les codes promo en général.
Ça, c'est un super... C'est effectivement, l'opportunité et l'objectif pour une marque, là, c'est d'aller donner preuve à son client ou en tout cas à celui qui est la marque qui est porteur de ce programme, de cette mission d'influence. C'est de dire, voilà, il y a un ROI derrière tout ça. Et donc, si je fais un code promo avec un identifiant spécifique à ma campagne d'influence, bah, je vais pouvoir mesurer, calculer et dire, j'ai fait tant de ventes additionnelles grâce à cette campagne d'influence, donc mon retour sur investissement, il est de temps. Donc, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, ça, ces fameux bons de réduction ou codes de promo. Voilà.
Après, c'est un type de campagne à part entière, en final, les codes promo, parce qu'on ne veut pas forcément vendre des réductions. Là, c'est vraiment pour une boîte qui souhaite soit se faire connaître ou soit faire des promos en période de solde. Là, il y en a eu beaucoup. Mais ce n'est pas forcément toutes les campagnes d'influence.
Et bien souvent, d'ailleurs, ces codes promo, ils sont additionnés avec l'envoi de produits gratuits à destination de l'influenceur. Là, on parle de campagne Goodwill, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et à ce titre-là, 63% des partenariats en 2018 se font sans rémunération. 63% des partenariats, c'est quand même beaucoup. Et on peut aussi dire que 87% des partenariats contre rémunération se dealent à moins de 500 euros.
Ouais.
87% des partenariats où là, il y a une rémunération, c'est en dessous de 500 euros. Et même, j'ai isolé un chiffre, c'est 42% entre 1 et 100 euros. Donc, on voit que le billet moyen, et ça, pour moi, c'est un peu une surprise parce qu'on entend quand même beaucoup de choses et des montants qui parfois semblent déconnants et sur lesquels on a du mal quand même à projeter un vrai retour sur investissement côté marque ou côté agence. Quand je vais aller payer 2000 balles à un influenceur pour quelque chose, franchement, c'est 2000 balles. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas meilleur temps d'aller mettre dans du publicitaire ou dans de l'achat d'espace ou juste dans mon contenu? En fait, on se rend compte que grosso modo, ces partenariats, une bonne partie, en tout cas 42%, se situent entre 1 et 100 euros. Donc évidemment, plus vous allez monter sur des gros influenceurs, plus ça vous coûtera davantage.
Ça dépendra du produit aussi, j'imagine. Si tu envoies une paire de pompes à 500 balles, tu ne vas pas forcément envoyer beaucoup d'argent avec. Puisque déjà, il y a le produit qui vaut cher en lui-même ou des robots de cuisine hyper technologiques.
Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est assez, assez intéressant, je pense, à suivre. L'évolution de ça, alors attention, il n'y a pas de prix de marché pour autant. On y viendra peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit que la tendance, elle est quand même à une sorte de normalisation là-dessus et de stabilisation vers des coûts qui semblent plus raisonnables que les quelques annonces de tarifs qu'on a pu voir circuler depuis 2 ans, qui étaient un peu faramineuses et sans réel ROI derrière. Quoi.
Je repense à mes cours, là. Il doit exister un sort de mix influence marketing, tu sais, les 4P, les choses comme ça. Prix que l'on paye à l'influenceur, type de produit, du coup, c'est lié au prix qu'on lui paye, taille du compte, exposition, etc., engagement, et tu dois pouvoir avoir un espèce de calcul.
Logique de coût, combien je devrais payer pour ça. Voilà. Mais effectivement, hein, je pense qu'on va vers une matrice de plus en plus lisible. C'est ce que je disais en intro, c'est que le marché de l'influence marketing est en train de se structurer. Ça y est, il arrive à maturité. Et avec ça, bah aussi un prix de marché. C'est-à-dire combien ça vaut un post, combien ça vaut une story, ça vaut pas le même prix, combien ça vaut en fonction de telle et telle influence, de mon taux d'engagement, etc. Et c'est vrai qu'on commence à y voir plus clair. Et encore une fois, avec finalement, quand on regarde un peu en détail cette étude et dans les chiffres, des prix par opération d'influence qui peuvent être raisonnables, alors qu'on a vu des trucs vraiment déconnants. Hein. Franchement, ouais. On a vu circuler, nous, des deals où tu voyais des prix payés par des marques à des influenceurs qui nous semblaient vraiment hors sujet. En fait.
Après, on est encore un petit peu dans l'ère Norman. On parlait tout à l'heure des youtubeurs, on est encore un petit peu à l'ancienne où certaines marques se disent ouais, faut mettre beaucoup pour avoir un influenceur, et elles sont quand même prêtes à le faire, hein, pour avoir Norman sur une bouteille de Fanta à payer 40 000 euros.
Ouais, mais Norman c'est autre chose maintenant, oui. c'est même plus de l'influence. Norman pour moi c'est vraiment une star, donc tu t'achètes une célébrité, une star. Par contre, quand on est dans de l'influence, pur instagrammeur, pur blogueur sur Instagram, qu'est-ce que voilà, l'influence, il faut arriver en tout cas à ce que retomber sur, quand tu montes sur une OP influenceur comme ça,
quelque chose de plus humain,
être sur quelque chose qui soit héroïste aussi dans ton approche, et malheureusement les premières années d'émergence de ce marché de l'influence marketing, on a vu globalement des démarches qui manquaient parfois un peu de clairvoyance et qui étaient un tout petit peu déraisonnables avec peu de ROI derrière. Voilà, ce qu'on peut continuer à dire, c'est que les partenariats que les influenceurs acceptent, qu'est-ce qui les pousse à accepter un partenariat ? 50%, 57% des influenceurs interrogés déclarent que c'est l'intérêt dans le produit. Ok, tu m'as senti sceptique, je leur fais confiance. Okay.
Ouais.
Et 25% considèrent que les valeurs défendues par la marque sont importantes.
Mmh. Oui, l'éthique de la marque. Disons qu'ils se comportent comme un client, quelque part. Ils sont aussi clients, eux. Donc
ça, c'est sûr, quand on monte une OP d'influence marketing, attention maintenant à bien raconter aussi son produit, sa marque, dans sa prise de contact avec les influenceurs. Comment je peux le raconter ?
J'ai envie de dire que peut-être les influenceurs sont un tout petit peu moins regardants qu'un client dans un rayon de supermarché, parce qu'il veut quand même nouer un partenariat.
Mais alors, tu vois, seulement 3,8% de ces influenceurs interrogés considèrent la rémunération comme leur premier moteur.
Écoute, c'est les honnêtes, ceux-là.
Oui, je sais pas, c'est surprenant. 3,8%, ça me semble peu. Hein. Et puis après, comment est-ce qu'ils gèrent le lien entre communauté et partenariat ? Parce que c'est vrai les influenceurs sont une espèce de grand écart comme ça. 96% déclarent informer leur communauté d'un partenariat. Ça tombe bien parce que c'est une obligation légale maintenant. Et puis, selon eux, 77% de leur audience considèrent les partenariats comme positifs. Là, c'est pareil. Je me permets, chers amis influenceuses et influenceurs, peut-être de remettre en doute ce chiffre, 77%. Il est quand même fort à parier que vos audiences...
Oui, ils ne sont pas forcément fans de post-sponsoriser.
Mais ils comprennent par contre que ça fasse partie aussi de manière de gagner sa vie, en tout cas d'arrondir ses fins de mois.
Alors moi, j'ai même noté 94,8% des followers perçoivent positivement ou indifféremment.
Ouais.
C'est la deuxième classe qui est très grosse aussi. C'est qu'en gros, soit on s'en fiche, soit on s'en fiche.
Voilà, je pense que globalement, les audiences qui suivent des comptes d'influenceurs savent que ça fait un petit peu partie du deal. À un moment donné, cette personne que je suis, qui produit beaucoup de contenu et qui me ravit tous les matins sur Instagram, a besoin d'un peu arrondir ses fins de mois. C'est normal. Donc j'accepte. Bon gré mal gré. Voilà. Juste pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de vous pousser cette publicité vers Diesel, une nouvelle publicité Diesel qui s'appelle. Et là, Diesel. Je suis pas payé, je tiens à dire. Je ne fais pas de travail d'influence.
L'autre, il a une casquette Diesel, j'y crois pas.
Mais allez voir cette publicité en ligne qui est très drôle, la campagne qui s'appelle Be a Follower de Diesel. Parce que ce qu'on a pu comprendre à l'étude, c'est que. En gros, être influenceur, c'est un taf, c'est un vrai boulot. Ça, on n'avait pas de doute là-dessus. Et que peut-être, il vaut mieux être un follower finalement. Et c'est exactement la campagne de Diesel. Allez jeter un coup d'œil. Be a follower. Voilà pour aujourd'hui. Excellent. Voilà, on espère que on a fait un bon tour d'horizon ensemble de l'état des lieux de l'influence marketing en 2019.
Qu'on vous donnera envie de faire de l'influence marketing.
Voilà. Évidemment, on va vous mettre les liens vers cette étude hein, directement dans les notes de ce podcast. Et on remercie Rich pour la qualité de cette étude.
Qu'il nous en refasse un l'an prochain. Pas de soucis.
On compte sur vous. Et puis, on vous souhaite à tous une très très belle journée. On vous donne évidemment rendez-vous sur nos réseaux sociaux.
Sur Instagram, Facebook,
Twitter, LinkedIn, @supernatif. Et puis évidemment,
vous pouvez écouter notre podcast
sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. S'il vous plaît, mettez-nous une petite note. On vous donne rendez-vous dès demain
pour un nouveau Super Délit.
Et on vous souhaite une très belle journée.
Allez, ciao.
Salut.
Salut.